Chers amis, nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse 12, pour lire les versets 10 à 20. Genèse 12, versets 10 à 20. Et nous y ajouterons les quatre premiers versets du chapitre 13 pour le moment. Genèse 12, 10 à 20 et 13, 1 à 4. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « Mais c'est sa femme. » Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi je l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici la femme, prends-la, va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta de l'Égypte vers le midi. Lui, sa femme, tout ce qui lui appartenait, Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Dans le psaume 105, un passage complémentaire, psaume 105, à partir du verset 7 et jusqu'au verset 15, psaume 105, verset 7 à 15. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Nous avons, hier soir, après avoir jeté un pont avec notre réflexion d'il y a un mois en arrière, nous avons commencé à envisager, au travers de ce début de l'histoire d'Abraham, la croissance de la foi. comment, après avoir suscité la foi, ce qui était notre grand thème de décembre, Dieu a bien entendu à cœur de la faire croître, de la développer, de la purifier, parce qu'elle est tissée, parsemée de scories. Elle a besoin d'être taillée, d'être émondée pour bien s'enraciner en Dieu. Nous avons remarqué hier soir qu'il n'y a pas de croissance de la foi sans test. Sept grands tests jalonnent la croissance de la foi dans la vie du Père des croyants. Et il n'y a pas de test qui ne signifie entrer dans un combat. Parce que quelqu'un s'oppose dans nos vies à la croissance de la foi. Parce qu'il sait que plus la foi du croyant va se développer, se purifier, s'approfondir, s'exercer dans la dépendance de Dieu, plus lui va y perdre des plumes, plus il va perdre du terrain. Je veux parler de la puissance des ténèbres. Satan va donc tout faire pour déloger Abraham du pays de la foi et de la promesse. Parce qu'il sait, avons-nous dit hier soir, que cette foi toute neuve est une plante bien fragile. Mais si Dieu ne le savait pas, nous pourrions être bien angoissés. L'épreuve de la foi. Les difficultés. Les difficultés qui ici portent un nom bien précis, le premier test de la foi, c'est celui de la famine. Il y eut une famine dans le pays. Et de surcroît, la famine était grande, sévère. Nous avons aussi remarqué hier soir que ce sont ces situations, ces difficultés, ces circonstances opposées qui vont permettre à la foi de développer une qualité fondamentale, la persévérance, la patience, ce que nous avons appelé la longueur d'âme, cet élément du fruit de l'esprit qui fait que nous ne piaffons pas avec impatience contre la lenteur dans le dévoilement et le déroulement du plan de Dieu et l'accomplissement de ses promesses dans notre vie. Nous savons que Dieu prend son temps et qu'il travaille aussi avec le temps. Et d'autre part, nous apprenons à persévérer, c'est-à-dire à tenir le coup sous le poids des pressions extérieures. Nous apprenons à être constants, endurants. Nous apprenons à résister à la puissance des ténèbres, à notre moi, à notre ego, à résister sans être pour autant opiniâtre vis-à-vis du Seigneur. Et vous vous souvenez que nous avions lu hier soir cette merveilleuse poésie de Ruben Sayens, ce chantre de Dieu. Nous avons notamment dans le fameux cantique « Sur les ailes de la foi » une quantité, plusieurs centaines de cantiques dont Ruben Sayens est à l'origine. Et je vous encourageais hier soir à lire la biographie de celle à laquelle Ruben Sayens fait allusion dans ce poème, à savoir Marie Durand, celle qui fut emprisonnée dans la tour de Constance à Aigues-Mortes pendant quelque 38 ans à cause de son désir de rester fidèle au Seigneur. Alors que j'avais simplement, avant d'aller plus loin, faire un peu de bonne publicité pour ce qui existe comme ouvrage et que vous pourrez vous procurer facilement à, dans une librairie évangélique d'Orléans que je ne citerai pas plus que cela. Vous avez tout d'abord un excellent livre qui s'intitule simplement « Marie Durand », qui est écrit par André Fabre et qui est une biographie remarquable tissée de lettres de Marie Durand et sa famille dans lesquelles elle laisse parler son cœur, sa foi et la manière dont elle s'appuie sur les Écritures dans sa situation difficile. Voilà donc un bon livre, facile à lire tout en étant très édifiant. Dans toute une série sur la même époque, intitulée « Pages d'histoire protestante », vous avez aussi ici les prisonnières de la tour de Constance. Vous voyez d'ailleurs là, pour ceux qui ont une bonne vue et qui ne sont pas trop loin, cette fameuse tour de Constance que l'on peut visiter aujourd'hui. Et l'auteur est Samuel Bastide, qui était en même temps un remarquable dessinateur. Et c'est une petite brochure très très bien faite, avec un texte très précis, très historique, dans lequel vous retrouverez d'ailleurs la poésie, également, si je me souviens bien, elle est là, et toute l'histoire de Marie Durand. Voilà, au plan évangélique. Et je vous encourage, je crois que trop souvent, nous, évangéliques, nous avons de la peine à avoir une identité spirituelle. Parce que très souvent, nous sommes ou bien d'origine catholique, ou bien nous ne savons pas très bien quelles sont nos origines sur le plan spirituel, et nous n'avons pas d'identité, nous n'avons pas de racine. Alors il est bon de découvrir que derrière nous, il y a toute une histoire de croyants qui, tout au long des siècles, ont cru vraiment ce que nous croyons et ont souffert dans notre pays à cause de leur foi. Et cela nous aide. Cela nous aide. Cela peut nous aider même à jeter des ponts dans notre relation avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ et qui se figurent que nous sommes une quelconque secte née dans les dernières décennies et qui n'avons aucun rapport avec l'histoire passée de notre pays. Nous avons de merveilleux rapports avec un christianisme évangélique qui n'a jamais cessé d'exister depuis l'aube du christianisme. Et là, dans le domaine de la tour de Constance, nous avons même le privilège, en langue française, et c'est assez rare, de disposer d'un ouvrage qui n'a pas été écrit par un évangélique, et que de surcroît, on peut trouver dans toutes nos librairies, en français et en Navarre. Il s'intitule « La tour de Constance ». C'est un roman, mais c'est un roman historique. Son auteur, c'est André Chanson, qui a été académicien, qui a écrit plusieurs livres. C'était un merveilleux écrivain à la plume remarquable, académicien, mais qui avait ceci de particulier, c'est qu'il était lui-même descendant de ces gens dont il écrit, notamment dans deux ouvrages, celui-ci, « La tour de Constance ». Et un autre qui est tout à fait dans la même présentation qui s'intitule « La Superbe ». Et « La Superbe » raconte simplement l'histoire d'un galérien pour la foi sur une des galères du roi. Et il se trouve que derrière ce galérien pour la foi se cache un de ses propres ancêtres. Alors il écrit remarquablement en se servant de toute une documentation très intéressante et je vous encourage vivement à vous procurer un ouvrage de cette qualité qui jettera encore un éclairage sur la constance, sur l'endurance de la foi d'authentiques enfants de Dieu qui nous ont précédés dans l'histoire de l'Église et que nous retrouverons là-haut, au grand banquet des cieux. J'espère, pourquoi pas, être assis à côté de Marie Durand pour lui poser un certain nombre de questions sur l'époque où elle était dans la tour de Constance. Voilà donc quelques ouvrages. Demain après-midi, en conclusion, je vous donnerai aussi quelques indications d'ouvrages intéressants, solides, bien fondés, bibliquement parlant, concernant l'approche de l'histoire d'Abraham. Ceci toujours pour nous aider, non pas à négliger notre Bible. Souvenons-nous que la priorité des priorités dans notre temps, c'est la parole de Dieu. Mais ce qui peut vraiment nous aider aussi à voir les illustrations dans l'histoire de l'exactitude des textes de la parole de Dieu, c'est de pouvoir aller vers des ouvrages qui illustrent merveilleusement combien le message de la Bible peut être vécu authentiquement en toute époque, en toutes circonstances, que ce soit dans des temps relativement faciles, que ce soit dans des temps plus difficiles. Je vous signale d'ailleurs que les ouvrages d'André Chanson, vous les trouvez actuellement très facilement chez un certain nombre de bouquinistes à Orléans. Donc vous les trouverez à un prix nettement moindre dans certaines librairies d'occasion à Orléans. Vous voyez, ça c'est un petit tuyau entre parenthèses. Revenons maintenant à l'essentiel, à notre texte. Nous avons remarqué hier soir que lorsque Abraham arrive en terre de Canaan, dans le pays, il fait une première constatation qui pourrait paraître bien amère. Il y a déjà des locataires dans la maison promise. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Il constate aussi, heureusement, que Dieu a été fidèle à son appel. Nous l'avions vu en décembre, il lui a dit en réalité, « Viens-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Viens, viens, plus que va, je te précède. Je suis devant toi, je t'attends même, là dans le pays. » Et Dieu se révèle fidèle, puisque au moment même où Abraham découvre ce qui pourrait attaquer sa foi naissante, Dieu se révèle à lui et lui dit, « Eh bien, tu sais, ce territoire, je te l'ai promis, et je tiendrai ma promesse. Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et puis, au fur et à mesure qu'il avance dans la découverte de ce pays, il s'approche du Négev, littéralement de la terre desséchée. Et une fois qu'il est là, au sud, il est aux prises, lui, chef de tribu, à la tête de dizaines et de dizaines de personnes. Il se rend compte que la famine se développe de plus en plus sévère, les vivres s'épuisent, la lassitude aussi est là, après le long voyage. Et nous avions terminé hier soir en nous disant, mais quel contraste impressionnant avec le contenu de la promesse. Quel changement de niveau de vie par rapport à Ur et à Caran. Voilà donc que tout va de travers. Quelle cruelle désillusion. Après cette promesse, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Oh mes amis, est-ce là la bénédiction tant attendue? Et voyez-vous, nous pourrions intituler notre réflexion de cette manière: de la louange à la sécheresse de cœur. De la louange à la sécheresse de cœur. À Sichem, à Naplouse, on loue le Seigneur. Un peu plus bas encore, à l'Orient de Bethel, on loue le Seigneur. Et puis on arrive là, dans le Négev. Et l'homme de Dieu, dans son enfance spirituelle, qu'il y a quelques jours à peine bâtissait encore des autels, n'en bâtit plus. Vous remarquez que là, dans le Midi, dans le Néguer, il ne bâtit pas un autel. Abraham est maintenant un homme préoccupé par la situation. Son regard semble s'appesantir sur les difficultés. Et là, je pense à tous ceux qui, dans nos églises, ou encore, hélas, à l'extérieur de l'église parfois, viennent de se convertir à Jésus-Christ. Et aux problèmes qu'ils rencontrent très rapidement à l'aube de la vie chrétienne. Problème auquel ils ont été trop rarement préparés. Le problème de ce que j'appelle la sécheresse intérieure. Une fois le temps de l'exaltation passé, ces moments de grand amour, où on se rend compte que Dieu nous a découvert, nous a débusqué, nous a fait la cour, nous a profondément aimé. On s'est tourné vers lui, ça a été la lune de miel. Des moments extraordinaires. Même nos nuits ont été bouleversées par cette rencontre avec le Seigneur. Nos sentiments ont bouillonné. On était sur la montagne dans notre découverte. Et puis voilà que, plus ou moins rapidement, on est troublé. Parce que on ne sent plus rien. Et comme on ne sent plus rien, eh bien, on croit tout simplement qu'on est en train de perdre la foi. Et on est en train, et c'est là que le paradoxe est fort, on croit que l'on est en train de perdre la foi au moment où précisément Dieu veut la développer. Le diable s'arrange pour nous faire croire que l'expérience que nous avons vécue, c'était une illusion. C'était un mirage. Le diable s'arrange pour nous faire croire que ceux qui nous ont présenté l'évangile nous ont trompés. Ils ne nous ont pas dit toute la vérité. Ils nous ont laissé croire que tout serait beau, tout le temps. Alors quelle terrible désillusion. On se dit, mais si c'est ça la vie chrétienne, alors je n'en veux pas. Et c'est pour cela qu'il faut que dans nos vies d'église, dans nos relations avec les autres, dans la manière dont nous annonçons l'évangile, nous ayons à cœur de prévenir pour ne pas avoir à guérir ceux qui se tournent vers Christ. Que nous leur disions, tu sais, ne t'étonne pas. Ce sera peut-être tout beau au début. Mais tu sais, tu vas être testé. Peut-être même très rapidement. Ta foi naissante va passer par un temps de famine. Et à ce moment-là, tu te souviendras que tu n'es pas en train de perdre la foi, mais qu'au contraire, Dieu est en train de travailler à l'approfondir. Parce qu'hélas, comme Abraham dans le Négev, dans leur sécheresse, ces jeunes croyants cessent très rapidement de bâtir des autels. Ils cessent très rapidement de prier. Ils cessent très rapidement d'avoir un contact avec ce Dieu, puisque ça n'apporte rien. Et alors c'est comme cela que le doute s'infiltre. Et le doute s'infiltrant, la conduite aussi très vite devient douteuse et engendre donc le péché. Rappelons-nous que nous avons ici un prototype. Abraham, le père des croyants, ce qu'il nous enseigne, ce que la Bible nous enseigne à travers l'histoire d'Abraham, je dirais, est normatif, c'est-à-dire est valable pour tous les temps. Il n'est pas un seul disciple de Jésus-Christ qui ne connaisse dans sa vie ce schéma de la mise à l'épreuve de sa foi. D'ailleurs, je dirais que c'est la raison aussi pour laquelle, lorsque quelqu'un est censé, comme on dit en raccourci, prendre une décision pour Christ, avant de nous prononcer sur son statut, à savoir est-il, oui ou non, véritablement converti à Jésus-Christ et régénéré, nous devrions toujours attendre que la première famine ait eu lieu, que le premier test ait eu lieu. Parce que c'est précisément ce test qui va révéler si oui ou non il y a eu une œuvre du Saint-Esprit suffisamment profonde pour se traduire en grossesse spirituelle et en nouvelle naissance, ou bien s'il y aura eu un avortement en quelque sorte en cours de route, comme le dit la parabole du semeur, puisque dans cette parabole, il est un des terrains dans lequel il y a enthousiasme au début. Et puis très rapidement, tout cela est étouffé devant les difficultés, devant les épreuves. Parce que le terrain n'est pas encore bon. Voilà un premier enseignement très très important. Alors, venons-en à la réaction d'Abraham. Et bien entendu, nous allons tout d'abord nous garder de lui faire un procès. C'est très facile de faire le procès de quelqu'un sans essayer de nous identifier à sa situation. Comment aurions-nous réagi si nous nous étions appelés Abraham et que nous avions été dans sa situation? Vous savez qu'il est toujours plus facile de critiquer un gouvernement quand on est dans l'opposition que de devoir gouverner. En réalité, ce qui est intéressant dans l'histoire d'Abraham, c'est qu'il est le miroir, ici, de nos incrédulités. Le père des croyants est le miroir de nos incrédulités. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme. Il succombe à la pression des circonstances contraires. Il est impressionné par les choses visibles. Comme bien plus tard dans l'histoire du peuple d'Israël, un autre homme, croyant lui aussi, dont le nom d'ailleurs signifiera « Dieu est roi », se laissera impressionner par les choses visibles en temps de famine. Je vais évoquer ici, au début du livre de Ruth, au chapitre 1er, ce personnage, Élimélec, qui se retrouve avec son épouse, Naomi, et ses deux enfants, Maclon et Kilion, dans une situation difficile parce que du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Et que voulez-vous, quand on habite à Bethléem, et que depuis Bethléem, je dirais, à la mode de 1994, on peut chaque matin ouvrir ses volets dans la direction de la mer Morte, et voir là, de l'autre côté de cette dépression la plus profonde du monde, les collines de Moab, de la Jordanie actuelle, et qu'à 80 km de là à peu près, Élimélec pouvait deviner les champs dorés d'un blé merveilleux, alors que lui, sa famille, son village, souffraient de la famine. Élimélec, lui aussi, s'est laissé impressionner par les choses visibles. D'une part, par la famine qui sévissait là où il était, dans la maison du pain. Et il s'est laissé impressionner par ce qu'il voyait au loin, à 80 km de là. Je me souviens, il y a quelques années, après une journée de visite de Bethléem, avoir put le soir donner une conférence à Jérusalem sur l'histoire d'Élimélec, tournée vers le pays de Moab. Ah, pouvoir la donner dans ce cadre était quelque chose d'extraordinaire. Après avoir contemplé la Jordanie depuis Bethléem, pouvoir ensuite y dire, mais c'est exactement ce que dit la Bible, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, la similitude, et c'est une similitude que vous verrez partout dans les Écritures. Ces tests dans lesquels nous sommes tellement tentés de succomber à la pression des circonstances contraintes. Où nous sommes tentés de reprendre notre vie entre nos mains et de quitter le terrain de la foi. Et le problème d'Abraham, c'est qu'en quelque sorte, il redevient autonome. Dans le sens précis de ce terme, c'est-à-dire qu'il décide d'obéir à ses propres lois. Au lieu de se soumettre à la pensée de Dieu, de ce Dieu qu'il vient de découvrir et qui quand même s'est déjà montré extraordinaire en l'amenant jusque-là. Il redevient indépendant. Et il faut savoir que le péché d'indépendance, c'est par excellence le péché du jardin d'Éden. Le péché d'autonomie, de propre suffisance, qui a amené le premier couple à un choix catastrophique. Abraham peut penser qu'une telle situation, cette famine, échappe au contrôle de Dieu. Il y a des moments où notre esprit d'indépendance se manifeste précisément parce que nous pensons que peut-être telle ou telle situation échappe au contrôle de Dieu. Et nous sommes tentés de redevenir indépendants parce que nous désirons être des gens raisonnables. Abraham opte pour le raisonnable, pour la sagesse d'en bas. Il est un peu comme Élimélec. Les deux enfants d'Élimélec et Naomi semblent avoir eu de sérieux problèmes de santé. Ils sont morts jeunes. Mais ils avaient aussi des noms qui laissaient entendre que leur naissance s'était passée dans des conditions difficiles. Maclon et Kilion, consomption, fièvre, fragilité, asthénie, maigreur. Ça n'avait pas été facile. Alors vous pensez, dans une période de famine, quand on est un père responsable, on doit aussi être un père raisonnable. Comment accepter dans une période de famine que nos enfants, qui ont déjà de la peine dans leur santé, et qui avalent médicament sur médicament et antibiotique sur antibiotique, n'est-ce pas, subissent encore et tout le temps ces pressions liées à des circonstances difficiles dans le domaine économique, etc. Surtout quand de surcroît, il suffit de faire quelques dizaines de kilomètres pour que tout change, pour qu'on ait le blé, pour qu'on puisse faire des bonnes tartines, et qu'on voit ses enfants refleurir dans leur santé. J'imagine que c'est un peu le même sentiment qui a dû se passer dans le cœur d'Abraham. Il était chef de clan. Nous l'avons dit, c'était presque toute une petite tribu qu'il transportait avec lui. Il y avait son neveu aussi. Il y avait des troupeaux. Et leur berger. Alors, il faut être raisonnable. Que vous évoquant que l'Égypte a une telle réputation avec ses canaux, avec ses alluvions sur le bord du fleuve qui en font un véritable jardin d'Éden aussi. Comment résister? Voyez-vous, c'est là tout le problème de notre logique humaine. Cette logique humaine qui fait que dans certaines situations difficiles, de mise à l'épreuve de notre foi, nous sommes tentés par la voie facile. Même si c'est ce qu'on appelle la voie du compromis. Parce que manifestement, Dieu n'était pas d'accord qu'Abraham aille en Égypte. Comme manifestement plus tard, Dieu n'était pas d'accord qu'Élimélec se rendent en terre de Moab, pour des raisons que je ne vais pas développer ici. Mais nous y reviendrons. Nous dirons simplement qu'il est facile en tant que disciple de Jésus-Christ, et ne montrons pas trop vite les gens du monde du doigt. Il est facile de tomber et de s'installer dans ce qu'on appelle, pardon d'utiliser ce terme, le rationalisme humaniste. Qu'est-ce que c'est que cela? Le rationalisme de raison, n'est-ce pas, consiste à agir comme si Dieu n'existait pas, tout en prétendant croire en lui. On agit comme s'il n'existait pas. On dit « je crois en lui ». Je participe à la vie de l'église locale. Je suis engagé. J'ai même été baptisé. Je prends même la scène. Et pourtant, on peut constater qu'il y a une sorte de contradiction entre ces actes spirituels et la vie de tous les jours. On agit en réalité dans sa vie de tous les jours comme si Dieu n'existait pas. Et en faisant cela, Abraham choisit la voie facile. Et ce faisant, il renonce à apprendre à vivre dans la disette. Et en utilisant ces mots, je pense à Philippiens chapitre 4, dans les versets 12 et 13, lorsqu'il est dit « Je sais vivre dans l'humiliation, dans le dénuement, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et oui, c'est aussi dans les Écritures. Le disciple de Christ doit apprendre à vivre dans la disette. Voilà qui s'inscrit à contrario de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Si vous vous convertissez à Jésus-Christ, vous devez obligatoirement vous enrichir. Parce que Dieu bénit matériellement ceux qui lui font foi. Envoyez-nous un chèque de 100 francs et vous verrez que Dieu multipliera par 10. Vous recevrez 1000 francs dans les jours qui suivent. Si Abraham entendait cela, il ferait un infarctus du myocarde. J'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Alors il y a, au chapitre 26, un court passage très intéressant, chapitre 26, verset 1 suivant. quelques mots, il y eut une famine dans le pays. C'est intéressant, la même expression, il y eut une famine dans le pays, verset 1er, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. On s'en souvient, cette famine. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut, et que lui dit-il, l'Éternel ? Ne descends pas en Égypte ! Demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et Isaac resta à Guérar. C'est intéressant. Chapitre 46, versets 1 à 4. Question de Jacob, dans son nom nouveau, Israël. Israël est parti avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba, aux 80 km au sud de Jérusalem, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Vous voyez que quand Dieu a vraiment voulu qu'Israël se rende en Égypte, pour des raisons toutes particulières, parce qu'il y avait toujours les fameux locataires dans le pays de Canaan. Or, Dieu voulait vraiment se forger, se préparer. Une nation, ce peuple était en train de se développer. Et il allait y avoir crise de logement. Donc Dieu a choisi à un moment donné l'Égypte de manière à ce que Israël puisse véritablement devenir un peuple. Parce qu'Israël, en Égypte, il y avait de la place. Et il y avait des conditions pour que ce peuple puisse devenir le peuple de Dieu. Alors là, il y a une autorisation toute spéciale. Comme si vous voulez, il y a des moments où Dieu peut dire à quelqu'un, écoute, tu peux aller à cet endroit-là, où d'habitude, je t'interdis d'aller. D'habitude, lorsque tu veux dépendre de moi, et que tu me dis, Seigneur, est-ce que je peux faire ceci ? Je te dis non. Tu le sais, c'est clair. Mais dans cette situation précise, vas-y. Et cette fois-ci, sache que je t'accompagne. Je serai avec toi. Ce sera peut-être difficile, mais ne crains pas, je t'accompagnerai. Voyez l'importance d'être dépendant de Dieu. Mais voyez donc que les chapitres 26 et 46 montrent que le premier test de Genèse 12, ce premier test du Père des croyants, a donc dû laisser des traces dans les esprits, en nous souvenant de toute la transmission orale, tous ces récits qu'on se racontait, n'est-ce pas ? J'allais dire le soir autour du feu, de foyer en foyer. On a raconté cette histoire de la peau de banane dans l'enfance de la foi d'Abraham, la manière dont il a glissé dès le départ. D'ailleurs, nous avons dans le prophète Ésaïe, par exemple, au chapitre 30, tout ce problème de la grande tentation d'Israël, Ésaïe 30, versets 1 à 3. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter. Nous l'avons lu tout à l'heure. Nous n'avons pas vu d'autel dans le Néguev. Manifestement, Abraham, là, n'a pas consulté l'Éternel. Qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Verset 3, Ésaïe 30. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Chapitre 31, verset 1er, même chose. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuie sur des chevaux, se fie à la multitude des chars, à la force des cavaliers. Ça a toujours été la grande tentation d'Israël. Vous voyez, ça a commencé à l'aube de l'histoire d'Israël, dans la vie de ce premier personnage, mais ça s'est poursuivi tout au long de l'histoire du peuple d'Israël. Chercher protection, secours, soutien, soit en Égypte ou encore en Assyrie. Il suffit de lire le petit livre d'Osée, par exemple. Dans le livre du prophète Osée, vous avez 13 mentions de l'Égypte, 9 mentions de l'Assyrie, et le prophète Osée est constamment en train de parler de cet écartèlement d'Israël dans son infidélité, toujours tenté ou d'aller chercher de l'aide en haut ou d'aller chercher de l'aide en bas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le contexte d'Ésaïe 30 et 31. Regardez par exemple Ésaïe 30, verset 15. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez, le problème, c'est, ce sont ces paniques. Et on va le voir, chez Abraham, il y a une panique à un moment donné. Il n'y a plus de calme. Le regard sur la situation, sur le visible, fait bouillonner son cœur, il perd ses marques. Et ça a été le problème d'Israël, cette panique. Ce sentiment que Dieu n'est plus là, qu'il n'agit plus comme il devrait. Si vous allez au verset 19 à 21, même chose. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : voici le chemin, marchez-y. Ne croyez-vous pas que, face à cette famine qui sévissait là, au sud du pays, si Abraham avait consulté l'Éternel, l'Éternel ne lui aurait-il pas dit : voici le chemin, marchez-y. J'ai prévu pour toi l'oasis. J'ai prévu pour toi le lieu de ta délivrance. Où ta foi, donc, aura grandi. Parce que tu verras que dans les circonstances les plus difficiles, les lionceaux peuvent craindre de ne pas avoir à manger. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et puis vous avez Ésaïe chapitre 26. Qui s'inscrit exactement dans le même contexte. Ésaïe 26, verset 3 et suivant, à celui qui est, c'est intéressant, l'unité des Écritures, à celui qui est ferme dans ses sentiments, ou encore ferme dans ses dispositions, celui qui a le cœur ferme. C'est-à-dire celui qui ne se laisse pas aller précisément au gré de ses sentiments. Celui qui ne vit pas dans l'instabilité de ce qu'il ressent en permanence, mais celui qui est ferme, celui qui en quelque sorte par le Saint-Esprit maîtrise, domine ses sentiments. Alors à celui-là, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, lui, n'est pas du sable mouvant comme les sentiments. L'Éternel est le rocher des siècles. Verset 12 et 13, Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Quel message encourageant. Pour toutes nos disettes, pour toutes ces situations qui sont autant d'impasses, où nous avons le sentiment d'être au fond du trou, où nous pensons que nous ne nous en sortirons pas, où nous vivons toutes sortes de famines qui portent des noms divers en fonction de nos situations aux uns et aux autres. Alors, quelles sont les conséquences de cette réaction d'Abraham que nous venons de commenter. Nous l'avons dit. Tout d'abord, un sentiment de peur. un sentiment de peur, d'insécurité, d'inquiétude, une angoisse. L'angoisse de tout disciple de Christ lorsqu'il commence à regarder aux choses visibles dans le test de la foi. Lorsqu'il commence à descendre. Abraham descendit en Égypte. Ah, quand on commence à descendre, c'est une véritable planche savonnée. Quand on cesse de prier, quand on cesse de dresser des autels, que Dieu ne peut pas renouveler ses promesses pour nous encourager. Alors, on commence dans l'inquiétude à utiliser la débrouille, les combines, le bricolage, le système D, comme Decker, les magouilles, le demi-mensonge pour sauver sa vie. Oh, ça commence bien. Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Ça a dû être quelque chose de très rafraîchissant pour Sarah. Elle a dû se dire, mais c'est fantastique, est-ce qu'il serait vraiment follement amoureux de moi, bien que nous ne soyons plus tout jeunes? C'est quand même beau, hein, ces déclarations. Je sais que tu es une femme belle de figure. Chérie, je n'en doute pas un seul instant. Ah, si elle avait su la suite du message. Il y a des déclarations chaudes comme ça qui préparent à plus sinistre. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Tant pis pour toi. Tu es belle. Débrouille-toi avec ta beauté. Vous avez vu combien le sens des valeurs est brouillé chez Abraham. L'égoïsme qui se développe. Après toi le déluge. Hein. L'essentiel c'est que je m'en sorte. La fin justifie les moyens. Ce que j'appellerais la casuistique. Cette méthode de subtilité très à la mode dans le monde jésuite, où l'on s'arrange pour ne dire qu'une partie de la vérité. C'est la réalité. Et si la conscience pince quelque peu aux entournures, on affirme à notre conscience, mais c'est la vérité. Elle est bien ma soeur. Et on s'énerve parfois devant cette insistance de la conscience. On l'étouffe. On la piétine. On veut absolument qu'elle se taise. Qu'elle est gênante. C'est vrai que Sarah était sa sœur, mais c'était sa demi-sœur. Le père était le même, mais la mère n'était pas là. On appelle ça aussi un demi-mensonge. Essayons de réfléchir au mécanisme en nous lorsque Dieu nous place face à ces tests, à nos propres demi-mensonges. À ces moments où, au fond de nous-mêmes, nous savons très bien que nous ne sommes pas la vérité, alors même que nous affirmons que nous sommes dans la vérité. Tout simplement parce qu'il y a une parcelle de vérité dans ce que nous vivons. Je pense à ce garde-barrière, gardien de nuit, qui avait été cité comme témoin dans un procès, tout simplement parce qu'il était en service à un passage à niveau une nuit où se produisit un grave accident. Un train entrant en collision avec une automobile causant de graves blessures à ses occupants. Personne n'avait vu l'accident. C'était dans un temps reculé où les passages à niveau ne fonctionnaient pas comme il y a quelque temps et maintenant. Et le gardien se trouva donc devant le juge qui, à un moment donné, lui demanda « Mais, monsieur le gardien, est-ce que vous avez bien brandi votre lanterne cette nuit-là, lorsque vous avez vu cette voiture qui arrivait et le train qui arrivait lui aussi ?» Et le gardien dut déclarer sous serment qu'il avait bien brandi sa lanterne pour avertir le conducteur. Alors la cour le déclara innocent et rejeta la faute sur l'automobiliste. Et notre gardien, de sortir de la salle de tribunal, attendu qu'il était dans la cour par certains amis qui voulaient savoir à quelle sauce il allait être mangé. Et il se précipite vers lui, il leur fait lever la victoire ou le pouce en l'air, n'est-ce pas ? Il s'approche autour de lui pour le féliciter. Et à ce moment-là, il murmure tout bas, vous savez, pendant tout le temps où le président du tribunal m'a interrogé, je n'avais qu'une seule peur. C'était qu'il me demande simplement si ma lanterne était allumée quand je l'ai brandée. Il avait dit la vérité. J'ai brandi la lanterne, monsieur le juge. Et en disant cette vérité-là, il avait menti. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes même capables de le dire au Seigneur parfois. Mais Seigneur, j'ai dit la vérité. Et le Saint-Esprit nous dit dans notre cœur, menteur, mais Seigneur, mais j'ai dit la vérité, menteur. Jusqu'à ce qu'on éteigne la voix de l'Esprit en nous. Jusqu'à ce que dans sa tristesse, le Saint-Esprit, je dirais, se noie dans les larmes de sa tristesse. Je pense à ce conducteur qui roule dans une ville et puis il accroche une voiture en stationnement. Immédiatement, il voit dans son rétroviseur, alors qu'il continue à rouler, les gens qui se rassemblent, qui observent, qui regardent la voiture, qui regardent la sienne. Alors il freine rapidement, il se poste sur le côté de la route, il sort de sa voiture, il s'approche de la voiture qu'il vient d'abîmer. Et là, au vu et su de chacun, il sort un carnet de sa poche et un stylo, et ostensiblement, il se met à écrire tout un message. Et puis, il glisse le message sur le pare-brise pour que le chauffeur, qui était absent, le trouve à son retour. Et il reprend la voiture, il part. Et à ce moment-là, un curieux, un peu plus courageux que les autres, va voir ce qui était coincé comme message. Et il y avait simplement ces quelques lignes. Les gens qui ont assisté à l'accident parce que je viens tout juste d'engloutir votre voiture, les gens me regardent. Ils pensent que je suis en train d'écrire mon nom et mon adresse. Il n'en est rien. Bonne chance. C'est vrai qu'on peut laisser croire aux autres qu'on est dans la vérité, dans ces tests, alors qu'on est en train de tricher. Parce qu'on pense que personne n'aura l'audace d'aller un petit peu creuser pour voir ce qui se passe sous le verre. Et nous pourrions ainsi multiplier les exemples. En tout cas, vous remarquez que tout se complique. Tout se complique quand on refuse ce test de la foi. Tout se complique là où tout devrait être si simple. L'hippopotame moi remonte à la surface, le centre de gravité change, l'égocentrisme se développe et l'égocentrisme génère toujours l'angoisse dans notre vie. Et ce qui est frappant, c'est que la même combine va être utilisée au moins 24 ans plus tard. Et par qui ? Eh bien, par Abraham et Sarah. 24 ans plus tard, près d'un quart de siècle plus tard, chapitre 20, verset 2, Abraham disait de Sarah sa femme, « C'est ma sœur, Aguérar, là dans le sud. C'est ma sœur. » Il nous est dit que Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, il lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur ? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère ? J'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme ou cet homme, car il est prophète. » La première mention d'un prophète, hein, il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, leur apporta toutes ces choses. Ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Et Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Mais qu'est-ce que tu nous as fait ? En quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Et Abraham répondit, ah, « Je me disais. » Vous savez, quand dans les Écritures, un texte commence par « Je me disais », et il y en a, hein, vous pouvez être sûr que ça va mal. Quand on commence à remuer ses pensées personnelles sans considérer l'Éternel, « Je me disais en moi-même qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. » Il s'est trompé, hein, parce qu'alors la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'elle était forte chez ces gens-là. Et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, et c'est là que c'est intéressant, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. » Alors là, c'est intéressant. Parce que nous avons ici ce que j'appelle un mensonge érigé dès le départ en principe de vie. Vous et moi, nous avons tous des principes, plus ou moins, et plus ou moins bons. Et nous devrions de temps en temps vérifier très sérieusement si nos principes sont justes. Ces principes, ce sont ces attitudes, ces mécanismes chez nous qui se reproduisent avec le temps, sur un quart de siècle, voire 50 ans, où chaque fois que nous sommes dans une situation bien précise, nous réagissons exactement de la même manière parce qu'un jour nous l'avons déterminé, ou bien, pardon de le dire, nos parents l'ont déterminé, nos éducateurs l'ont déterminé, l'école par laquelle nous sommes passés l'a déterminé. Et nous les avons assimilés, nous les avons intégrés à notre vie. Et ainsi, nous reproduisons, tout au long des années, un principe qui peut être un principe de mensonge. Mais nous nous en rendons à peine compte, parce que c'est entré là dans les chromosomes de notre vie quotidienne, sur des années et des années. C'est un principe. Je me souviens quand nous étions responsables d'une église en Bretagne, je crois vous l'avoir dit, ou je l'ai dit ailleurs en tout cas, et qu'en allant chez tel ou tel membre de l'église pour inviter pour un repas, nous voyions l'épouse L'épouse et le mari étant convertis à Jésus-Christ depuis des années, puis l'épouse, au moment de couper le pain, faisait le signe de croix sur le pain. Depuis des années, elle était convertie à Jésus-Christ. Elle aimait le Seigneur, elle lisait la Bible. Et elle continuait à faire le signe de croix. Pourquoi ? Parce que c'était un principe qu'elle avait appris de ses parents, peut-être simplement. Et c'était comme ça, c'était un automatisme, mais ce n'en était pas moins inacceptable au regard de Dieu. D'ailleurs, regardez dans Genèse 26, versets 7 à 11, Genèse 26, il est question d'Isaac, nous avons lu les premiers versets. La fameuse famine, et Dieu qui dit à Isaac, ne descends pas en Égypte. Et juste en dessous, il est dit, et donc nous sommes avec le verset 6, Isaac reste à Guéra. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Et c'est vrai qu'elle était belle. Il semble même que Rebecca soit... Le nom Rebecca signifie une corde avec un nœud coulant, une espèce de lasso, vous savez, qui vous en sort, elle, tellement vous êtes jolie. Alors c'est intéressant ici, parce que nous voyons que non seulement chez Abraham et Sarah, on avait érigé un mensonge en principe de vie, mais dans la génération qui suit, eh bien, le principe se perpétue. Et Isaac va donc utiliser la même méthode. Et voyez-vous, disons-le, le péché de nos aînés peut être une bonne excuse. Bah, écoutez, mais mes parents ont fait comme ça. Pourquoi est-ce que ce serait mauvais ? Puisque mes parents l'ont fait. Et ce qui est certain ici, c'est que l'exemple parle plus que les discours. Et il y a un dernier enseignement ici. C'est qu'il importe de couper clairement dans nos vies avec les mauvaises habitudes. Apparemment bénignes, inoffensives. Le problème d'Abraham et de Sarah, c'est que dans Genèse au chapitre 12, nous ne voyons à nulle part qu'ils aient réglé les problèmes. S'ils avaient clairement dit au Seigneur, à l'aube de leur foi, « Seigneur, ça, c'est une faute. Quand nous avons quitté Uran-Chaldée, puis Charan, nous avons pris un engagement ensemble, c'était un mensonge. Ça, c'est encore un héritage de notre passé lorsque nous vivions de l'autre côté du fleuve. Seigneur, pardonne, nous n'avons pas coupé dans ce domaine. Ça s'appelle un péché, c'est un mensonge. Même si nous avons effectivement un lien de parenté. Alors, nous le reconnaissons comme mensonge. Mais parce que ça n'a pas été reconnu et confessé comme mensonge, 24 ans plus tard, ça ressort. Et mes bien-aimés, il en est ainsi dans notre vie. Si je ne veux pas reconnaître quelque chose devant Dieu comme étant mensonge, si je discute, si je continue à aller de l'avant de cette manière, eh bien, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, je risque de recommettre exactement la même faute. Et mes enfants vont peut-être continuer. Je crois que nous allons nous arrêter là pour être, si possible, frais et dispo pour demain matin. Nous verrons encore plusieurs leçons et puis nous passerons, Dieu voulant, au chapitre 13 pour voir demain, après avoir terminé ce premier test, cette première épreuve de la foi, nous verrons la deuxième épreuve et la manière dont Abraham a dû faire face à un autre type de situation. Et comment il a réagi, et je dirais que là, Abraham nous encouragera beaucoup, parce que ce soir, Dieu s'est peut-être servi, certainement, d'Abraham et Sarah pour nous reprendre dans certains de nos comportements, dans certaines de nos combines. mais il veut aussi nous encourager. Il ne veut pas nous abandonner, comme il n'a pas abandonné Abraham, disons-le ce soir, avant d'aller nous coucher. Il ne veut pas nous abandonner. La leçon a été difficile. Le rouge a dû monter sur le visage de ces deux personnes. Quelle honte! Mais Dieu les a visités. Alors ne laissons pas Dieu utiliser cette soirée pour nous plonger dans le découragement qui vient de la puissance des ténèbres. Laissons-nous reprendre là où c'est nécessaire. Peut-être sommes-nous dans une situation en ce moment de famille. Un de ces déserts, un de ces négèves stériles, difficiles. Nous sommes tentés de douter de la fidélité de Dieu. Nous nous sentons peut-être à plat. Nous ne sommes pas sur les hauteurs. Nous n'avons plus ce sentiment puissant de la présence de Dieu. Alors nous nous accusons. Alors qu'il y a des déserts qui sont une nécessité. Il y a des déserts qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour nous. Qui sont les déserts de nos désobéissances. Mais il y a aussi les déserts qui sont une nécessité. Ces déserts de l'éducation. Il y a des famines qui sont liées à nos désobéissances. Ces famines de la parole de Dieu parce que nous n'avons pas su prendre le temps de la parcourir, de la lire, de la méditer, de la recueillir. Alors, la Bible nous dit que Dieu peut envoyer des famines dans ce domaine aussi. Mais il y a d'autres famines qui sont des nécessités pour notre éducation, de manière à ce que nous grandissions. À nous, dans notre intimité avec le Seigneur, de discerner par le Saint-Esprit ce qu'il a voulu ce soir nous dire dans notre situation personnelle. Nous, sur ce plan, les enfants d'Abraham, mais surtout les enfants d'un merveilleux Sauveur qui fait grâce à ceux qui viennent vers lui pour confesser et délaisser le péché et ainsi obtenir miséricorde. Nous prions. Ô Seigneur, merci ce soir parce qu'en examinant l'attitude d'Abraham en particulier et de Sarah face à cette première épreuve, ce premier test de la foi, nous nous sommes vus comme dans un miroir. Parce que c'est vrai, je le reconnais, j'ai aussi vécu ces moments plus d'une fois. Placé dans ces situations de famine, j'ai préféré mes combines, mes débrouilles, ma sagesse terrestre au regard de la foi qui s'appuie sur toi. Merci pour tout ce que tu m'as appris, pour tout ce que tu nous as appris lorsque nous avons simplement plaidé coupable. Accepter d'appeler mensonge ce que tu appelais mensonge. Et où nous avons cédé à l'action du Saint-Esprit pour être purifiés par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, accompagne-nous ce soir. Prolonge toi-même ce que nous avons partagé dans nos cœurs. Aide-nous à faire le point. Et prépare-nous à cette journée de demain pour qu'elle soit riche de ta présence tout au long des heures que nous aurons à passer ensemble sous ton regard. Nous t'adorons parce que même lorsque nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle. En Jésus-Christ.